Radio-Cassine, grand témoin.
Ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président de l'Union des travailleurs du Congo, actuellement sénateur, André Boboliko Lokonga Monsemihomo est aujourd'hui l'invité de grand témoin. André Boboliko Lokonga, merci de nous recevoir chez vous.
Merci, moi de vous remercier pour que vous me donnez l'occasion de m'exprimer en toute honnêteté.
Comment allez-vous?
Ben, je me porte bien. J'étais à un moment donné malade, mais depuis lors, les médecins ont confirmé que c'est guéri.
Vous avez fait beaucoup de choses hein, dans ce pays, premier ministre, sénateur, beaucoup de fonctions à la fois que nous allons devoir parcourir hein, dans cette émission. Mais nous commençons généralement par l'enfance. En ce qui concerne votre date de naissance, le 15 août 34, vous naissez à Lobani. C'est dans quelle partie du pays?
Le territoire de Koutou, district de Maïndombe, dans la province de Bandundu. C'était un gros village de ce territoire.
Quel genre d'enfant était Boboliko Lokonga?
Eh bien, j'étais né dans le village, donc j'étais un enfant de village comme tout le monde. Le village était grand, il y avait un catéchiste catholique qui en même temps faisait le moniteur pour la première année, donc j'ai fait mon étude primaire. Mais comme villageois, bien sûr, j'ai fait toutes les activités du village, j'ai accompagné mes parents dans la pêche, puisque nous sommes des riverains là-bas. La chasse, l'agriculture. Donc, j'ai fait comme tous les enfants du village, j'ai fait ces activités-là, mais surtout principalement la pêche parce que nous sommes des riverains.
Et vous n'étiez pas d'un caractère, par exemple, turbulent?
Bon, ça, je ne saurais pas le dire, mais d'habitude, je suis calme. Je crois même assez studieux.
J'ai même oublié de vous souhaiter bon anniversaire parce que le 15 août dernier, vous avez totalisé 75 ans.
Tout à fait, tout à fait. Et j'ai eu 75 ans le 15 août. Et vous voyez, moi qui suis catholique, et pour les catholiques, ils sauront que le 15 août, d'habitude, c'est l'Assomption de Marie. Donc, en d'autres mots, je suis un enfant de Marie. Et c'est comme ça que j'ai combiné les deux. Et au lieu de faire la commémoration le 15 août, ça a été fait le 20 pour une autre raison spirituelle, puisque j'ai une grotte dans ma maison et cette grotte a eu 20 ans. Donc, j'ai deux anniversaires ont coïncidé.
Comment se sent-on à 75 ans?
Eh bien, je dois dire, je dois rendre gloire à Dieu parce que je vois que je me maintiens quand même et que je garde encore toute la lucidité et enfin, je suis prêt à tout.
Vos études primaires, hein, c'est à la mission catholique à Koutou et à Sainte-Anne, à Kinshasa. De Koutou, comment vous arrivez à Kinshasa?
Justement, puisque ma mère s'était remariée à Kinshasa, je l'ai suivie alors à Kinshasa. Donc, j'ai dû interrompre mon école primaire à Koutou à l'internat, parce que là, nous étions à l'internat. Des conditions assez dures, puisqu'il fallait préparer soi-même les chukwang, les feuilles de manioc et tout cela. Et j'ai suivi ma mère à Kinshasa. Et à Kinshasa, alors, j'ai pu poursuivre mes études primaires, d'abord à Sainte-Marie, Notre-Dame, et ensuite à Sainte-Anne, et puis à l'école moyenne Saint-Raphaël. Je suis de la première promotion de l'école moyenne Saint-Raphaël de Limité.
Pouvez-vous me rappeler quelques noms d'amis d'enfance?
J'ai eu des amis, il y en a qui vivent encore et d'autres ont été appelés à Dieu. Il y a notamment l'ancien PDG de l'OZRT, RTRC, Louis Dongo Badjanga, et Seko Bala, c'est mon collègue de classe. Il y a eu aussi l'ancien secrétaire général de l'UNTC, comme moi d'ailleurs, mais qui malheureusement vient de mourir cette année, qui continue ça. Ça, c'était des amis de l'école.
Vous le savez, en Afrique, hein, nous ne cessons de le répéter dans cette émission, chaque nom a sa signification. Boboliko Lokonga Monsemihomo. Que signifie votre nom?
Bon, je commence par la fin. Mon clan, c'est Mihomo. Boboliko, et c'est un peu long à expliquer, mais je vais résumer. Le Bo, là, c'est Mbo. Chez nous, les jumeaux s'appellent Mbo Ntla. Donc, je suis Mbo, mais jumeau spécial, c'est-à-dire que je suis sorti seul, l'autre n'était pas viable. Alors, d'habitude, chez nous, on l'appelle Mboliko. Donc, on ajoute quelque chose à Mbo. C'est comme ça que mon nom, au départ, était Mboliko, mais avec les complications administratives et commis à l'époque qui ne connaissaient pas la langue. Alors, le nom s'est compliqué, c'est devenu Boboliko. Mais le Congo, là, c'est le nom de mon père. Donc, là, c'est tout à fait juste.
Et ça veut dire quoi?
J'ai essayé de connaître l'origine, mais apparemment, on dirait un nom qui vient de l'Équateur. parce que le conga à l'équateur, c'est le serpent, je crois, le serpent venimeux.
Les études moyennes, vous les faites à l'école moyenne Saint-Raphaël de Kinshasa, d'où vous aurez votre diplôme en 1955. Les supérieurs, c'est à l'école sociale des Verlet Louvain en Belgique, de novembre 55 à décembre 58. Vous obtiendrez un diplôme d'assistant social niveau A1 délivré à Bruxelles en 58. Comment vous arrivez en Belgique?
C'est toute une histoire parce que, en bref, le mouvement ouvrier chrétien Belgique voulait africaniser les cadres du syndicat chrétien du Congo. Et il voulait le faire vraiment de manière très profonde. Alors il avait envoyé le directeur général de cet enseignement supérieur de Belgique au Congo pour recruter des étudiants. Alors il a fait le tour du pays et a pris, à l'époque il y avait 6 provinces, il a pris un étudiant par province et moi j'étais le représentant de la province de Léopoldville. Alors nous étions 6, à cela on a ajouté 2 du Rwanda Burundi puisque nous étions sous la même colonisation belge, plus 2 prêtres, un abbé de Kisantu et un religieux de Faradje, donc au total 8. Et nous sommes partis, mais il faut le savoir, à l'époque, les Congolais ne voyageaient pas en Belgique, c'était interdit. Au point qu'au moment où tout était prêt, on voulait prendre l'avion, l'administration coloniale s'est interposée pour interdire ce voyage. Alors heureusement, le directeur général qui était ici au Congo, un prêtre aussi d'ailleurs, a dû alerter la Belgique, parce que eux, c'est la démocratie à ce moment-là. Les parlementaires ont fait leur affaire et ont obligé le gouvernement là-bas à donner des injonctions que nous partions. Nous étions d'ailleurs partis en retard, c'est pour ça que vous voyez. C'est de novembre 1950, au lieu de septembre, les cours commençaient en septembre. Nous sommes arrivés en Belgique, mais après plusieurs députés.
À votre retour au pays, vous exercez déjà beaucoup de fonctions sur le plan social. En 55, pendant 6 mois, vous travaillez dans une imprimerie de Kinshasa en qualité d'employé de bureau. Janvier 59, début de la carrière syndicale à la Confédération des syndicats chrétiens du Congo en qualité de secrétaire permanent régional à Léopoldville. En 59, secrétaire administratif national de la Confédération des syndicats chrétiens du Congo, CSCC. En 60, vous êtes élu secrétaire général de l'Union des travailleurs congolais UTC, qui remplace la Confédération des syndicats chrétiens du Congo. Parlez-moi un peu des débuts du mouvement syndical au Congo.
Le mouvement syndical au Congo, vous savez que c'est un syndicat d'importation. C'est-à-dire que ça n'a pas été créé par les travailleurs congolais, mais ça a été importé par les travailleurs blancs de la colonisation. Comme ils venaient avec l'économie, le capitalisme, etc., ils venaient avec les entreprises et tout cela. Les travailleurs blancs de ces entreprises qui étaient au Congo avaient amené aussi le syndicat. Et c'est ainsi que, après un certain temps, ils ont quand même eu pour pied, je dois dire, cité les travailleurs congolais, et ont créé à côté d'eux des syndicats pour les Congolais. Donc, les syndicats fonctionnaient en appendice aux syndicats blancs parce qu'eux seuls avaient la liberté syndicale, la liberté politique de le faire, tandis que les Congolais, nous étions dans la colonisation, on ne pouvait pas le faire. Donc c'est ainsi que le mouvement ouvrier chrétien de Belgique, voyant l'évolution des choses, a voulu déparer donc la reprise de ce syndicat par les Congolais en nous envoyant étudier en Belgique. C'est ainsi que nous avons étudié là-bas et qu'on a fait des stages au syndicat et après alors nous sommes venus et on s'est engagé au syndicat chrétien du Congo.
En décembre 61, vous êtes élu président national de l'Union des travailleurs congolais. Donc au total, vous avez pratiquement 11 ans de vie syndicale au cours desquels vous avez organisé des grèves générales. Vous avez été emprisonné 2 fois, en 62 à Makala, 45 jours en 63 à la prison militaire au camp Tchatchi. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette vie syndicale?
C'est une vie de combat. On lutte au syndicat, on doit lutter, et chaque lutte souvent s'accompagne des problèmes d'arrestation. Mais je crois que pour un début, il fallait passer par des difficultés comme ça, pour vraiment voir clair un peu par après. Ça m'a donné des leçons pour dire que quand on a un idéal à défendre, il faut la défendre coûte que coûte, quelles que soient les difficultés. Et c'est ainsi que j'ai dû faire face à ces épreuves-là. J'ai travaillé dans le syndicat chrétien de Belgique. Donc j'étais préparé, mais alors il y avait évidemment un problème au niveau des travailleurs. Parce que comme je vous ai dit, le syndicat était un syndicat d'importation. C'est les travailleurs blancs qui l'ont introduit. Donc ça ne vient pas des Congolais. Alors comme ça venait des blancs travailleurs, à l'époque la conception du blanc était telle que le Congolais ne pensait pas qu'un blanc pouvait venir de l'Europe pour être à son service. Parce que tous les blancs qui étaient chez nous, en avait tellement des avantages, etc. On ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des travailleurs pauvres parmi eux pour s'occuper des pauvres travailleurs du Congo. Donc, il y avait un problème de conception de l'homme blanc qui a gêné même ce mouvement parce que les gens ne croyaient pas que les cadres du syndicat qui étaient là, les blancs, pouvaient être au service de la société. Comme ça, les gens ne voulaient pas payer cotisation de peur d'enrichir le plus les blancs du syndicat.
De septembre 60 à mars 61, vous devenez membre du collège des commissaires généraux, commissaire général adjoint au travail et à la prévoyance sociale, 64, membre de la commission constitutionnelle de Loulabourg, 65, sénateur de la deuxième législature de la Première République, 68, membre du bureau politique du Inter, bon, pour ne s'arrêter d'abord que là, mais du mouvement syndical, qu'est-ce qui vous amène en politique?
La disponibilité de septembre, la 60, à, c'est quoi, mars 61, j'étais mis en disponibilité, parce que chez nous, au syndicat chrétien, c'était clair, on ne pouvait pas mêler politique et syndical. On est syndicaliste ou on est homme politique. Donc là, comme il y avait ce mouvement des jeunes intellectuels, parce qu'avec les difficultés du pays à un moment donné, on avait mis en place ce fameux collège des commissaires généraux. Et alors moi, je venais de rentrer aussi, donc j'étais compté parmi les jeunes élites et j'ai été incorporé dans ce collège des commissaires généraux comme adjoint au ministère du Travail. Donc j'ai dû exercer ces fonctions alors en dehors du syndicat.
Ya inalimite azambeo gena yotoka na metenite robandera mogali alimite pardo na kosenga yo mekisa mwasi na yo boyo zinika ikambo yango etali yo nobo azali kokinga ngai kotongo ngai alobi yo boyinga ye Kolanda te, kaebi yo, aloba na yo, kaboto badangi, lokola ozi. Kai nalikite, azate yo, kana yoto swaga. Na mesenite, obandela, mobali alikite. Kado na kotenga yo, pekita mwati na yo, moyo nishika. Kambo yango, itali yongo, azali kopinga ngai, kotango ngai, alobi yongo ingai. Kakola nate, kayebi yongo, aloba na yo, nangoto badaki, lokola uti.
Il y a une étape très importante, c'est le moment de l'indépendance qui vous trouve déjà dans ce mouvement syndical. Comment vous avez vécu le 30 juin 1960?
Le syndicalisme à ce moment-là avec ces changements qui s'opéraient. Parce que quand nous avons repris cela, nous avons dû faire face à une première chose, c'est de changer la conception que le travail avait du syndicalisme, parce qu'il le trouvait que c'était un objet d'importation. On a dû faire ce travail-là, tout étant après l'indépendance. Bon, l'indépendance, avec toutes les promesses qui étaient faites à l'époque, etc. et tout, eh bien, on a dû, côté travail, s'adapter un peu, c'est-à-dire que nous avons dû rencontrer l'association des employeurs dans une négociation qui aboutit à ce que les travailleurs, par exemple, aient une prime d'indépendance. Et qu'après tout de suite l'indépendance, nous avons engagé des négociations qui ont abouti à pas mal de changements dans le monde du travail. Et ces changements, il fallait le dire, a commencé d'abord par une chose importante, c'est que dans la colonisation, les Blancs et les Noirs étaient séparés. Donc, même chose aussi dans le domaine du travail, il y avait un contrat d'emploi pour les Blancs et un contrat de travail pour les Noirs. Donc, il fallait maintenant unifier ces contrats-là et nous l'avons fait. Et on a fait encore d'autres choses qui ont fait que les travailleurs congolais à l'époque, à la période d'après l'indépendance en tout cas, avaient acquis des choses qui plaçaient notre syndicat au rang des syndicats modernes.
Alors, en 65, hein, ça correspond à l'arrivée du président Mobutu aux affaires. Vous êtes sénateur à ce moment-là. En 68, vous êtes membre du bureau politique du NPR. De 70 à 79, député. 70 à 69, président du conseil législatif. Soit 9 ans de présence ininterrompue pratiquement à la tête du conseil législatif actuel, l'Assemblée nationale. Comment vous vivez l'arrivée du président Mobutu aux affaires et l'arrivée du MPR, le mouvement populaire de la révolution?
Ça, c'est peut-être on n'a pas le temps parce que c'est long à expliquer. D'abord, je vous ai dit que nous étions en prison militaire au camp Tchati. Et lui, on était le commandant en chef à l'époque. Au camp Tchati habitait aussi ce qu'on appelait le groupe de mise. En fait, les gens qui avaient le pouvoir du pays en main, tous habitaient là-bas. Donc, le premier ministre, à l'époque, qui était notre collègue du syndicat, c'était Adou Lassiri, il venait du syndicat. L'administrateur en chef de la sécurité, qui était l'INDAC à l'époque, nous étions là-bas. Mobutu était à 500 mètres de notre maison. Mais on ne sait pas comment. Lui, le matin, il nous envoyait son chauffeur avec un certain nombre de petits déjeuners. Donc, il nous soignait à l'insu des autres. Alors, nous n'avions pas compris. On dit, mais comment un militaire peut soigner les syndicalistes pendant que le premier ministre est lui-même syndicaliste? Donc, il ne le faisait pas. Mais lui a fait tout cela. C'est ainsi que quand nous sommes sortis de prison, sans savoir qu'il allait être le président, mais on avait quand même une bonne impression de lui. Et moi-même en 62, parce que ma première prison, ça c'était en 62, quand je suis sorti, le gouvernement voulait me reprendre. J'avais disparu à Kinshasa. Et finalement, pour sortir de ma clandestinité, c'est mon ami, donc l'ancien PDG de l'OZERIA, donc de RSNT, chez qui j'étais d'ailleurs, m'a amené, et lui connaissait bien le colonel Mobutu à l'époque, il m'a amené là-bas. Et c'est lui qui m'a dit de sortir de ma place, il m'a garanti qu'on ne me ferait rien. Et effectivement, on n'avait fait rien. Donc pour moi, personnellement, il y avait déjà ces deux faits. Qu'au moment où il a pris le pouvoir, il a fait plus toutes nos revendications des syndicats. Vous savez qu'à l'époque, les syndicats étaient contre la multiplication des provinces. Il y avait 21 provinces qu'on appelait les provinces. Nous étions contre. On voulait qu'on revienne au nombre de 6 parce qu'on dit que ça multipliait les dépenses et tout cela. Alors, des revendications comme celle-là, lui, quand il a pris le pouvoir, il a diminué effectivement le nombre de provinces et il a fait beaucoup de choses que nous avions demandées. C'est comme ça que, bien que ce soit la dictature à l'époque, nous avions vu que celui-là, au moins, ce régime était pour les travailleurs et nous l'avons soutenu. Voilà comment, à un moment donné, on nous dit, mais comment vous avez soutenu la dictature? Mais c'est à cause de ce que je vous explique. Et puis, il faut dire la vérité aussi. Au début de ce régime, il était vraiment ouvert aux masses laborieuses, surtout aux travailleurs.
De mars 79 à août 80, vous travaillez comme premier commissaire d'État, premier ministre. Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif hein, après ce passage pratiquement à la tête du pays, hein, après le président de la République?
Parler de moi-même, c'est beaucoup dire. Mais je sais que j'avais introduit les interpellations en pleine dictature, donc nous interpellions les ministres et tout. Et tous les points que les parlementaires soulevaient, il y avait une difficulté de transport, il y avait le problème des salaires, il y avait un certain nombre de choses. Et bien, quand je suis arrivé, moi, je me suis mis à appliquer tout ça. Donc, il y a eu, par exemple, ça, si vous demandez, en décembre 79, il y a eu baisse des billes. dans les magasins. J'ai cassé le marché qui est au pont Cabu et qui pratiquement faisait l'augmentation des prix avec le commissaire d'État à l'intérieur à ce moment-là, m'a fait, mais nous avons éliminé ce marché. Alors, j'ai fait un programme gouvernemental, pas entre les murs du gouvernement, mais j'ai associé les syndicats et les employeurs. Donc, j'avais un programme gouvernemental de tout le monde. Malheureusement, ça n'a pas fait longtemps et qui avait été adopté parce que pendant la dictature, on ne passait pas devant le Parlement, mais moi, j'avais demandé au président d'aller avec mon programme agricole minimum. Ça s'appelait PAM. Je suis passé avec ça. D'abord, il est politique et ensuite au Parlement et ensuite, nous l'avons appliqué. Mais, malheureusement, vous savez, je n'avais fait que 18 mois et le malheur dans notre pays, c'est quand vous quittez celui qui vient, donc on a balayé tout cela.
Dans le MPR, vous occuperez beaucoup de fonctions, 80 à 81, secrétaire exécutif de ce mouvement, 80 à avril 90, membre du comité central du MPR. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fragilisé le régime Mobutu?
D'abord, en tout cas, les 10 premières années, là, je peux vous dire sincèrement que les choses marchaient. Mais après, et c'est ça l'erreur qui arrive souvent dans nos pays, la famille est mongo-créo, la famille a commencé à avoir un mot à dire dans la gestion du pays, donc on écoutait plus la famille que les organes du pays. Comme c'était la dictature, le pouvoir était devenu un pouvoir fort. Toute dictature, personnellement, c'est comme ça que je qualifie ça, c'est un pouvoir intérêt. C'est comme ça que mon parti, le Parti démocrate, c'était un chrétien. Nous sommes maintenant pour un pouvoir service, contrairement au pouvoir intérêt qui, malheureusement, règne dans notre pays. Le pouvoir intérêt, donc, où quelqu'un monte au pouvoir, il est là pour son intérêt, l'intérêt de sa famille, où il sert le chef, plus son intérêt. Et l'intérêt général, on met de côté.
Alors, avec le vent de la démocratisation des années 90, vous participez le 26 avril 90 à la création du Parti démocrate et social chrétien PDSC. Et là, pratiquement, vous entrez dans l'opposition. N'êtes-vous pas de ceux que le président Mobutu a considéré comme ceux qui l'ont poignardé dans le dos?
C'était effectivement un problème pour lui, parce que mon président à l'époque du PDSC était Iléo. Moi-même, et je ne sais qui encore, un certain nombre de cadres qui étaient dans ce parti-là ont été rappelé en quelque sorte à l'ordre par le président. Il nous a demandé de le quitter pour revenir au MPR. Certains sont retournés, mais le président, il est moi-même et d'autres cadres. On a dit, il a mis fin à la dictature. Il a fait une ouverture politique, donc le pluralisme politique. Le pluralisme syndical est revenu. Et bien là, chacun reprenait sa liberté. Et moi, j'ai dit à lui, j'ai dit, bon, souvenez-vous qu'avant d'être au bureau politique, j'étais au syndicat. Encore le syndicat libre, le syndicat chrétien. Maintenant qu'il y a la liberté, comme je suis resté longtemps dans la politique, on a créé un parti politique. Donc mon milieu naturel, c'est là-bas. C'est ce que je lui avais dit. Et après des discussions et discussions, il avait compris que je devais être là. Il m'a laissé tranquille.
Alors, vous participerez à la conférence nationale souveraine en 91, 92 à 97, conseiller de la République, 95 à 97, premier vice-président du bureau du Haut Conseil de la République par de transition. Depuis septembre 1995, vous êtes élu président national du PDSC au premier congrès de ce parti. 2002, délégué du PDSC au dialogue intercongolais. Août 2003, député à l'Assemblée nationale de la transition. 2006, viennent les élections. En 2007, vous êtes élu sénateur. Mais après un moment, on n'a plus revu André Bobolico. Pratiquement le silence total. Pourquoi?
Bon, c'est pas un silence, c'est plutôt un temps de méditation, de réflexion, parce que ce que nous avons vu, ce que personnellement même j'ai vu dans ce pays pendant les élections, vous savez que moi je les qualifie des élections d'argent. Il fallait avoir l'argent sans quoi vous ne passez pas. Bien sûr, il y a quand même une exception, il faut dire. Le Palou à l'époque, s'il avait gagné, il avait eu des quoi. Lui n'a pas distribué l'argent, mais tous les autres. Nous n'avons pas eu d'argent, nous, pour les élections. Le résultat n'est que le PDC n'a que 2 députés et 1 sénateur moi-même. Donc, il n'y a que 3 parlementaires sur les 600. L'argent est devenu maintenant un critère d'élection. Et là, je trouve que la démocratie est faussée. Il y a l'Assemblée entre 30 et 50 députés d'obédience PDC, mais qui nous avaient quittés pour d'autres cieux, et là où ils ont eu les moyens. Nous sommes dans la période là de réflexion pour voir comment il faut recommencer, parce que pour que ça réussisse, il faut absolument que les gens soient convaincus, comme je vous ai dit là-bas, maintenant nous sommes pour un pouvoir service, c'est-à-dire que les gens aient cet idéal, céder au pouvoir, c'est pour servir l'intérêt général et non pas le pouvoir et l'intérêt.
Nous tournons vers la fin de cet entretien. Vous avez beaucoup de décorations, hein, nationales et étrangères, grand cordon de l'ordre national du Léopard, grand croix de la Légion d'honneur du Togo, grand officier de l'ordre national de la Tunisie, grand officier de l'ordre national du Tchad, grand officier de l'ordre national de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, Brazzaville, Mauritanie, Roumanie, Libéria, Cameroun. Comment avez-vous pu avoir toutes ces décorations?
Eh bien, vous savez que je suis resté longtemps président de l'Assemblée nationale du Togo. Au début même, j'étais la deuxième personnalité de la République. Alors, avec ce temps-là, nous, et les relations que nous avons tissées avec les pays africains et le monde entier, vous savez que le Congo était un pays respecté dans le monde, et tout, donc il y a eu beaucoup de visites des présidents des assemblées chez nous, et du président de l'assemblée donc, du Congo, en Afrique et dans le monde. Et vous savez que ces visites-là se terminent souvent par des remises de décorations. Donc, en ma qualité de président de l'assemblée, j'ai reçu ces décorations-là, soit que quand j'ai accompagné le président de la République dans ses voyages officiels, soit que quand moi-même, j'ai dirigé une délégation de parlementaires congolais. Donc ça fait que le pays était ouvert. Ouvert, pas seulement ouvert, et respecté. Et même cru, parce que ça, il faut que j'ajoute. Et même cru.
On disait, on disait, maman, yo sali, moi nanga ya tongo, oya pesa kangasa, yo sali, bolo ya motema nanga. Soki yo te o nalibe Tiyanyanga mi mokyo kom sala Sestini Tiyanyanga mi mokyo kom sala Sestini Andipe, andipe Je t'aime Andipe, andipe Otyo si mote mananga Andipe, andipe Kaponi o nalingi yo Andipe, andipe Ozali, moi en la cana, tongo. Soki na sangi ya mona, obema. Ozali, lolo ya mote mananga. Wapio. Tiyanyanga mi mokya kom sala, c'est fini. Tiyanyanga mi mokya kom sala, c'est foutu. Ambi pe, ambi pe. Ambi pe, ambi pe. Ambi pe, ambi pe. Ambi pe, ambi pe. Yo anana, yuda. Ambi pe, ambi pe. Yo na pe saka, monte magi. Ambi pe, ambi pe. Ambi pe.
De vie, André Boboliko Lokonga, beaucoup de postes sur le plan national, international, dans d'autres structures parlementaires. Il n'est pas facile d'en parler en 25-30 minutes, mais pour clôturer cette émission, quel message pouvez-vous adresser à toute la jeunesse congolaise qui vous suit en ce moment?
Il faut que la jeunesse abandonne ce qu'il présente comme la lutte entre les vieux et les jeunes, et ça ne nous avance pas. qui était élu président de l'Assemblée nationale, c'était encore l'Assemblée nationale, parce qu'après c'est devenu conseil législatif, à l'âge de 35 ans. À la transition, quand nous revenons en Afrique du Sud, on avait introduit cette lutte-là, on a dit, voilà, maintenant on avait gêné les cadres, et on citait Kamitas qui était président de l'Assemblée à l'époque, comme jeune. Mais il avait 40 ans, moi je l'étais à 35 ans. Donc l'ancien régime donnait aussi des responsabilités aux jeunes. Ce qu'il faut, c'est que les jeunes et les vieux devons nous mettre ensemble pour reconstruire le pays. Donc ça, c'est absolument un. Et deuxièmement, les dirigeants maintenant, on est accroché à défendre, à chercher ses propres intérêts. On devient chef pour servir. Et nous qui sommes des croyants, Jésus lui-même a dit, si vous voulez être chef, il faut servir les autres.
André Bobolico Lokonga, merci de nous avoir reçus, chef.
Moi, je vous remercie, surtout d'être venu jusqu'à moi.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais André Bobolico Lokonga, Monsemi Homo, ancien premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président de l'Union des travailleurs du Congo, actuellement un sénateur. À la présentation, Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci de nous suivre à Lobamiti, dans la province du Ndundu et partout dans le monde.